La marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, acteurs et témoins de l'histoire.
Mesdames, messieurs, nous ressentons très profondément l'honneur qui nous échoit d'accueillir avec le premier festival mondial des arts nègres tant de talents venus des quatre continents, des quatre horizons de l'esprit. Mais ce qui nous honore au-delà de tout et qui fait votre plus grand mérite, c'est que vous aurez participé à une entreprise bien plus révolutionnaire que l'exploration du cosmos. Vous aurez participé à l'élaboration d'un nouvel humanisme qui comprendra cette fois la totalité des hommes sur la totalité de notre planète Terre.
Nous sommes à Dakar, au printemps 1966. Dans le tout jeune Sénégal indépendant, le président poète Léopold Sédar Senghor prononce le discours inaugural du premier festival mondial des arts nègres. Pour la première fois en Afrique, la créativité et la pensée des artistes et des intellectuels noirs est célébrée. Après la création de la revue et maison d'édition Présence africaine en 1947, après les deux congrès des écrivains noirs à Paris en 1956 et à Rome en 1959, le Festival mondial des arts nègres célèbre enfin la négritude épanouie. L'aboutissement d'un long combat initié par Alioune Diop pour la cause des Noirs. Noir est notre cause, c'est une série de trois émissions écrites avec Amaury Auchard et mise en onde par Cécile Pompéani et Sophie Janin. Dernier épisode, le Festival de Dakar 66, où la négritude épanouit.
En 66, c'était l'époque de Senghor.
Kader Diop, journaliste sénégalais.
Parti unique, ou il disait pas unique, mais il disait unifié. Radio unique, journal unique, donc pensée unique également. Et Senghor avait une idée magnifique, c'était de promouvoir la culture nègre. Il disait nègre, il ne disait pas noir. Et tout le monde était mobilisé, parce que c'est le chef qu'il voulait, tout le monde voulait promouvoir la culture. Même le petit Sénégalais lambda, qui ne comprenait rien à tout ça, voulait se faire africain en se mettant non plus en costard, mais en costume traditionnel pendant cette période-là. Ce qui fait que c'est une ambiance extraordinaire pour la pays à Dakar.
Le Festival mondial des arts nègres, ça a été le moment de gloire de Senghor.
Bernard Schaeffer, journaliste français.
D'abord, ça a été une apothéose politique et ça a été pour lui l'occasion d'affirmer que le culturel était plus important que l'économique. Alors que pour beaucoup de chefs d'État ou de chefs de gouvernement africains de l'époque, influencés par le marxisme, c'était l'économie qui devait primer. Senghor a pu affirmer là que la culture était essentielle, était même plus essentielle que l'économique.
Bernard Schaeffer et Kader Diop avaient une vingtaine d'années en 1966. Tous les deux étaient présents à Dakar pour couvrir le premier festival des arts nègres. Kader Diop pour la radio nationale sénégalaise et Bernard Schaeffer pour Locora, la radio de coopération française devenue depuis RFI.
Quand je suis arrivé à Dakar quelques jours avant l'ouverture officielle, c'est-à-dire, grosso modo, aux alentours du 22 mars 66, déjà à l'aéroport, avec l'arrivée des délégations qui étaient accueillies par des groupes folkloriques, par des délégations gouvernementales, il y avait une effervescence et il y avait aussi une décontraction, une joie, parce que dès l'aéroport, on voyait qu'il y avait quelque chose qui se préparait, qui était présent. Et puis ensuite, tout du long de la corniche, il y avait des chanteurs, il y avait des danseurs, il y avait des groupes de sabars, c'est-à-dire ces petites formations avec des tambourinaires et puis des danseurs dans toute la ville. Donc c'était quand même une grosse animation et on sentait que la population adhérait.
Et puis, les gens étaient vraiment sensibilisés parce qu'il y avait une petite chanteuse sénégalaise qui avait fait une sorte d'hymne du festival que l'on passait et repassait à la radio. Tout le temps, on avait toujours comme indicatif le festival. Bon, tout le monde parlait du festival et dans la population, on sentait que les gens avaient envie, sans rien comprendre, peut-être en se disant, ben, si on mettait les tresses, on les appellerait les tresses du festival, le boubou du festival. Et c'est comme ça que bon, on sentait que tout le monde était pris dans l'ambiance de ce festival-là. Partout. Alors, sans compter que avec les répétitions à gauche, à droite, les troupes qui étaient là dans la rue tout le temps, c'était une ambiance extraordinaire de gros villages, de grands villages avec tout le monde. Et il n'y avait pas d'islamiste pour dire faut pas faire ça. Personne ne l'a jamais dit. Ce qui fait que bon, au total, c'était une manifestation vraiment populaire.
Posso acreditar, Rosinha, que você não vai voltar.
Les stades étaient bondés. Il y avait au stade, il y avait une pièce qu'on appelait la tragédie, la tragédie du roi Christophe. C'était à Sorano avec Jean-Marie Serrault comme metteur en scène du roi Christophe de Césaire. C'était bourré à chaque spectacle, bourré. Alors c'était tout le temps là. À Gorée, il y avait un festival son et lumière qui retraçait l'itinéraire des nègres, l'esclavage, etc. Et ça s'est passé la nuit jusqu'à 22h, dernière chaloupe, c'était plein. Au stade d'Emba Diop à l'époque, oui, qui s'appelait le stade de l'amitié, il y avait les derniers jours de l'Aldjor. L'Aldjor, c'est un héros national qui a combattu le colonialisme. Donc, le stade était plein. Je ne parle pas des rues de Dakar, parce que chaque troupe venant de tel pays, était affectée en carrefour pour l'animer de telle heure à telle heure, et l'animation était là. Et il y avait également les troupes qui se produisaient à Sorano. C'était les troupes, je me rappelle surtout les tambourinaires d'une Burundi, magnifiques avec leurs gros tambours et leur danse avec le tambour. C'était magnifique tout ça.
Les voix croisées de Kader Diop et de Bernard Schaeffer, jeunes journalistes en 1966 à Dakar, ils se souviennent de l'ambiance frénétique du premier festival mondial des arts nègres, un événement qu'il faut replacer dans la continuité historique du mouvement pour la cause des Noirs, initié par Alioune Diop depuis les années 40, avec une revue, Présence africaine, des congrès à Paris en 56 et à Rome en 59, où déjà l'idée d'un festival avait germé dans la tête des intellectuels anticolonialistes. Bonjour Sarah Friou-Salgas.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes archiviste au musée du Quai Branly et que vous nous accompagnez sur les 3 épisodes de notre série Noir et notre cause, à retrouver sur RFI. Alors, en ouverture de cette émission, le journaliste Kader Diop évoquait la fête à Dakar, ce qu'a vécu également Bernard Schaeffer, puisqu'ils étaient tous les deux jeunes journalistes pour leurs médias respectifs à l'époque. Et on sent bien, à travers ces archives sonores, cette ambiance frénétique de la rue. Qu'en savez-vous par rapport aux recherches que vous avez pu faire en tant qu'historienne sur le sujet?
Quand on entend les témoignages, on voit que voilà, les rues étaient pleines, toutes les salles de spectacle étaient ouvertes. Qu'il y avait... Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en général, dans les salles de spectacle, il y avait deux représentations, une pour un peu les VIP et le lendemain pour vraiment la population dakaroise, notamment dans le grand stade où il y avait de grands concerts. Et ce qui est intéressant, c'est que l'effervescence était... d'autant plus forte pour les habitants que c'était le festival a eu lieu au même moment que les fêtes religieuses de l'Aïd el-Kabir et de Pâques. Donc c'était voilà, aussi une grande fête religieuse pour les religieux. Et puis voilà, politique, culturelle pour les Sénégalais en général.
Alors en ce qui concerne un Sénégalais en particulier, à savoir Alioune Diop, puisque c'est le personnage central de notre série, que représente ce festival des Arts Nègres pour lui, c'est-à-dire pour lui et tous ceux qui l'ont imaginé dès 1959 au Congrès des écrivains de Rome, comme on a pu l'entendre la semaine dernière.
Je pense que pour Alioune Diop, c'est un peu l'aboutissement d'un chantier qu'il a commencé en 1947, hein, voilà, avec sa revue, avec ces deux congrès qu'on a pu évoquer. Jusqu'ici, on parlait de l'Afrique en dehors de l'Afrique. Et là, maintenant, on se met à parler. Tout se passe en Afrique. Donc, c'est un peu un résultat assez extraordinaire. Ce qui est intéressant, c'est que ce festival, il devait avoir lieu en 63, mais finalement, c'est en 63 que commence l'organisation pour 66. Et on va créer une sorte de comité d'organisation que Alioune Diop va présider. Et évidemment, voilà, pour lui, c'est l'aboutissement d'énormément de choses, une collaboration avec Senghor. Et l'investissement d'Alioune Diop a été particulièrement important pour l'organisation du Grand Colloque.
Nous avons vu comment les intellectuels noirs autour d'Alioune Diop, autour de présence africaine, ont accompagné tout ce mouvement de décolonisation. Pour que ce festival des Arts Nègres existe, il fallait absolument que les Afriques soient décolonisées.
Oui. C'est le symbole d'une Afrique indépendante aussi. Voilà, c'était à la fois ce qu'on dit essentiellement de ce festival, voilà, une illustration de la négritude qui commence dans les années 30, un combat, et ce qui sera le discours de Senghor. Mais je pense que c'est aussi une manière voilà, d'affirmer une société nouvelle avec son aspect culturel. Voilà, c'est les indépendances. Il y a évidemment tous les enjeux, tout ce que ça veut dire politiquement, mais aussi culturellement. Et je pense que c'était aussi pour les pays qui viennent à Dakar, hein, c'est des représentations nationales. C'est une période aussi où on était peut-être un peu en train de définir, chacun de définir ses cultures nationales, de comment on va se présenter. Il va y avoir des troupes de théâtre, des troupes de danseurs, etc. C'était comment les pays nouvellement indépendants vont parler d'eux et vont se définir culturellement et aller chercher leur propre culture. Et ça aussi, je pense que c'est une force du festival.
Écoutez la voix d'Alioune Diop, il présente l'objectif du Festival des Arts Nègres de Dakar en 66.
Nous allons chercher à comprendre et faire comprendre les normes selon lesquelles les peuples africains ont coutume de comprendre leur art et d'user de leurs œuvres d'art et les conditions psychologiques, spirituelles et matérielles dans lesquelles traditionnellement est animée la conscience artistique des Africains.
Senghor rêvait, disons, d'une rencontre autour des arts africains pour les mettre en lumière, en évidence. Et ça faisait aussi partie du projet de présence africaine, bien sûr.
Roland Collin, ancien chef de cabinet du Premier ministre Mamadou Dia, de 1960 à 1962.
Bon, mais ce qui est clair, c'est que ce projet ne pouvait être qu'un projet d'État et un projet inter-État. Présence africaine, à l'époque... était un mouvement littéraire. Il n'avait pas les moyens de lancer un projet de cette envergure-là. Donc il y a un comité qui s'est constitué pour préparer le festival dès 1960, début 61. Moi, j'étais au cabinet de Mamadou Dia à l'époque, donc du Premier ministre, enfin du chef du gouvernement. Et au cabinet de Mamadou Dia, j'étais le correspondant du projet Festival des Arts Nègres
en relation avec le cabinet de Senghor. Et donc, à ce titre-là, donc, progressivement, ont été débattus les grands projets, et en particulier le fait que les organisateurs du festival, Senghor en tête, et puis Alioune Diop étant aussi avec lui, tout à fait dans cette ligne-là, il s'agissait de faire une démonstration, non pas verbale, mais concrète, de cette puissance de l'art nègre. Je crois que c'est un peu le point culminant de l'histoire et de l'œuvre de Senghor, chef d'État et homme de culture dans ce circuit-là. C'est vraiment une des choses les plus fortes qui ressortent de son héritage. Alors effectivement, on pouvait, moi j'étais de cela et j'étais loin d'être le seul, regretter que la crise précédente entre Senghor et Dia, 4 ans avant, ait en quelque sorte privé Mamadou Dia d'être partie prenante à cette immense célébration. Mais la célébration en soi a été quand même, de toute manière, un grand succès.
En 1966, à Dakar, Senghor savoure son triomphe sans partage. Le président poète a dépensé sans compter afin que le Festival des Arts Nègres soit à la hauteur de ses ambitions humanistes et politiques. Dakar est transfiguré, nous disent Kader Diop et Bernard Schaeffer, nos jeunes reporters de l'époque.
Bon, comme il n'y avait pas beaucoup d'infrastructures, il a fallu vraiment créer. Donc, vous voyez, l'allée du centenaire, qu'on appelle l'allée du centenaire maintenant, ou l'allée du général de Gaulle, avec les HLM construits à gauche et à droite, tous ces logements venaient d'être construits et ont été affectés aux délégations. Donc c'est la construction de ces logements a aménagé une bonne partie de Dakar, parce que c'était des taudis qui étaient là, du côté des allées du centenaire, c'est-à-dire la rue qui mène vers l'obélisque. Donc il y a ça qui était aménagé. Le théâtre d'Agnès Sorano était construit de toutes pièces. On a construit un musée qu'on appelait le musée dynamique pour les expositions d'art contemporain. C'était une énorme bâtisse qui est devenue la Cour suprême maintenant, qui permettait d'avoir dans une salle fermée les œuvres d'art qui étaient venues un peu partout.
Bernard Schaeffer, journaliste français.
C'était un bâtiment, disons, dans un style un peu grec. Et ce qui avait été intéressant aussi, c'est que ce qui symbolisait un petit peu le festival, c'est ce qu'avait fait inscrire Senghor sur le frontispice. Je vous le lis si vous voulez. C'est « Seul l'homme peut rêver et exprimer son rêve en des œuvres qui le dépassent. Et dans ce domaine, le nègre est roi, d'où la valeur exemplaire de la civilisation négro-africaine et la nécessité de la décrypter » pour fonder sur elle un nouvel humanisme. Bon, tout le festival est dans ces mots, et toute la négritude, un petit peu, et le but de Senghor est dans ces mots.
La première semaine de ce Festival mondial des arts nègres de Dakar a été particulièrement mouvementée. En effet, c'est à une cadence accélérée que se sont succédées manifestations folkloriques, colloques, remises de prix et conférences de presse. Celle qu'a tenue le président de la République du Sénégal a été fort appréciée par le parterre de journalistes venus des quatre coins du monde. Devant eux, M. Léopold Sédar Senghor a en particulier exprimé les espoirs qu'il mettait dans ce festival.
Notre problème est double. Il faut nous enraciner dans notre civilisation traditionnelle, dans notre continent, dans notre race. Mais il faut en même temps nous ouvrir au monde extérieur, il faut combattre le racisme à courte vue, et le nationalisme même à courte vue. Et c'est pourquoi je pense que ce festival, encore une fois, donnera aux négro-africains une meilleure connaissance, une plus grande fierté et surtout un plus grand amour de la négritude.
Pendant 24 jours, du 1er au 24 avril 1966, le Festival mondial des arts nègres a constitué un événement sans précédent dans l'histoire culturelle du continent africain. 20 000 visiteurs se sont rendus au spectacle et aux expositions initiées par la revue Présence africaine et la Société africaine de culture. Les tambours du Burundi, le théâtre du Nigérian Wole Soyinka, le grand orchestre de Duke Ellington, mais aussi une grande exposition des arts traditionnels africains et un colloque pour permettre à la voix du monde de se faire entendre quand elle parle de l'Afrique.
Les Sénégalais vous disaient que c'était la deuxième fois où ils étaient vraiment très fiers d'être Sénégalais. La première fois, ça avait été au moment de l'indépendance, quelques années plus tôt. Et puis pour le festival, oui, il ressentait beaucoup de fierté.
Nous retrouvons Bernard Schaeffer. Il est tout jeune journaliste en 1966 à Dakar, où il couvre le festival pour la radio de coopération française Okora, devenue RFI.
Moi, si vous voulez, ce qui m'a beaucoup frappé dès le départ et qui symbolise un petit peu tout le festival, c'est les premiers mots qu'a prononcé Malraux lors du colloque. Où il disait « nous sommes entrés dans l'histoire ». Enfin, nous voici donc dans l'histoire. Pour la première fois, un chef d'État prend entre ses mains périssables le destin d'un continent. C'était quand même très fort. Et ça, les Sénégalais l'ont ressenti vraiment avec beaucoup d'émotion et beaucoup de fierté.
Monsieur le Président de la République, Excellences, Mesdames, Messieurs, nous voici donc dans l'histoire. Pour la première fois, un chef d'État prend entre ses mains périssables le destin d'un continent.
Écoutez, moi je crois que dans les discours de Malraux, en tout cas, c'est probablement parmi les deux meilleurs discours. Il y a Jean Moulin au Panthéon, et puis il y a le discours de Dakar.
Jamais il n'était arrivé ni en Europe, ni en Asie, ni en Amérique, qu'un chef d'État dit « Ce qui est maintenant l'avenir de l'esprit, nous allons ensemble tenter de le faire. »
Oui, alors ça, c'était le discours. C'était le grand moment qui a valu d'ailleurs une standing ovation de tous les participants à ce colloque, parce que c'était la reconnaissance d'une part d'une idée, c'était la reconnaissance d'un homme, la reconnaissance d'une culture, c'était la reconnaissance d'une civilisation. C'était formidable. Mais là, il y a un point d'arrêt. Et là, on se dit, il y a quelque chose qui se passe. Là, on est en train de vivre, effectivement, un moment historique.
Une culture, c'est d'abord, dans l'ensemble, l'attitude fondamentale d'un peuple en face de l'univers. Mais ici, aujourd'hui, ce mot a deux significations différentes et d'ailleurs complémentaires. D'une part, nous sommes en train de parler du patrimoine artistique de l'Afrique. D'autre part, nous sommes en train de parler de sa création vivante. Je vous fais remarquer que ça veut dire que nous parlons d'une part d'un passé et d'autre part d'un avenir.
Ça, c'est moi qui l'ai enregistré, oui. J'avais quelqu'un avec moi, bien sûr, hein, mais ça c'est... Oui, oui. La salle entière s'est levée, a applaudi à tout rompre, quoi. C'était formidable.
L'émotion du journaliste Bernard Schaeffer dans La Marche du Monde sur RFI. Il avait 20 ans à Dakar en 1966 et il enregistre Malraux, il enregistre César, des discours historiques et parfois grandiloquents prononcés pour le Festival mondial des arts nègres, premier du genre.
Mes chers amis, je dois vous dire tout de suite que...
Aimé César.
Aucun mot ne mérite davantage que le mot de négritude, je n'aime pas du tout ce mot-là. Mais puisqu'on l'a employé et puisqu'on a tellement attaqué, je crois vraiment que ce serait manquer de courage que d'avoir l'air d'abandonner cette notion. La négritude, est-ce qu'elle est ? Elle a ses qualités, elle a ses défauts. Mais au moment où on la vilipende, où on la dénature, je voudrais quand même que l'on fasse réflexion sur ce qu'était la situation des nègres et la situation du monde nègre au moment où cette notion est née. Au moment où elle est née, comme spontanément, tellement il me semble que cette notion répondait à un besoin. Bien sûr, à l'heure actuelle, les jeunes peuvent faire autre chose, mais croyez-moi, ils ne pourraient pas faire autre chose à l'heure actuelle si à un certain moment, entre 1930 et 1940, il n'y avait pas eu des hommes qui avaient pris le risque de mettre sur pied ce mouvement dit de la négritude. Ce mouvement de la négritude, tellement attaqué et tellement défiguré, il ne faut pas oublier le rôle qu'elle a joué dans l'éveil du monde nègre, dans l'éveil de l'Afrique. Eh bien, si la négritude a un mérite, c'est que précisément, dans les temps de l'abomination et de la nuit, ces poètes de la négritude ont été quand même, malgré leurs défauts, des porteurs de clarté.
C'est évident que c'était un des hauts moments. Il y a eu le discours de Malraux, il y a eu le discours de Césaire, il y a eu le discours de Senghor. C'était les trois étoiles de ce festival.
Les grands discours de Dakar prononcés en 1966 lors du colloque qui se déroule à l'Assemblée nationale sénégalaise pendant le premier festival mondial des arts nègres. Césaire, Malraux, Senghor, les trois étoiles du festival. Alors on commence par qui, Sarah Friou-Selgas?
Si je devais choisir, serait celui d'Aimé Césaire. Comme on l'a entendu là, ce qui est intéressant et ce qui explique aussi, ce qui raconte ce colloque, c'est que c'est un colloque transgénérationnel. Il y a les vieux de la négritude, qui ne sont pas si vieux, mais qui ont... Et la jeune génération qu'on a évoquée tout à l'heure avec Wole Soyinka, qui ont attaqué la négritude en 62, en fait, la fameuse phrase de Wole Soyinka... Un tigre ne proclame pas sa tigritude, date de 62, donc c'est quelques années avant. Et là, on sent aussi que Césaire répond à cette jeune génération. Et l'autre chose de ce discours, c'est justement où il s'émancipe de la question de la négritude du festival en concluant son discours avec ces mots. C'est pourquoi aux hommes d'État africains qui nous disent « Messieurs les artistes africains, travaillez à sauver l'art africain », nous répondons Hommes d'Afrique et vous d'abord, politiques africains, parce que vous qui êtes les plus responsables, faites-nous de la bonne politique africaine, faites-nous une bonne Afrique, faites-nous une Afrique où il y a encore des raisons d'espérer, des moyens de s'accomplir, des raisons d'être fiers, refaites à l'Afrique une dignité, une santé et l'art africain sera sauvé. Donc c'est la conclusion de son discours et donc je pense qu'il est d'une modernité assez évidente. Et c'est ce qui symbolise ce colloque, à mes yeux, plus qu'un colloque de la négritude, en fait.
La culture, au départ, de sentier beaucoup plus politique, souligne Aimé Césaire. Alors, je rappelle que ce colloque, c'est tout, sauf des Africains qui parlent aux Africains. C'est une rencontre ouverte, avec un casting éblouissant. Francis Bébé intervient sur la musique africaine moderne, Jean Rouche sur le cinéma d'inspiration africaine, Wole Soyinka, vous l'avez dit, sur le théâtre moderne négro-africain. C'est à la fois la rencontre donc de l'art nègre avec l'Occident, pour la jeune génération, mais c'est aussi la tradition africaine. Est-ce qu'on lui fait également une large place, Sarah Friou-Selgas?
Oui, alors ce qui est intéressant avec ce colloque, c'est qu'il est aussi une sorte de réponse à un numéro que Présence africaine a coordonné en 1951 sur l'art nègre, où au cours de ce numéro, il n'y a quasiment pas d'auteur africain, à part un, qui écrit sur les musées africains à Dandé. Et là... Quelques années plus tard, les trois quarts des intervenants sont quand même africains, sont anglophones, francophones. Mais ce qu'on dit rarement sur ce colloque, et c'est qu'il y a eu des commissions de travail. C'est un peu aussi une sorte de... Ça rappelle 59, hein, où à la fois il y a des interventions, mais il y a aussi maintenant réfléchi comment... on va s'organiser dans les pays en question. Par exemple, je ne sais pas, il y a eu des résolutions sur le cinéma où, dès 66, on réfléchit à une constitution d'archives audiovisuelles de la culture africaine, etc. Différentes choses.
Cela veut dire, Sarah Friou-Selgas, que les artistes, les écrivains qui sont présents à Dakar en 66, qui participent à ce colloque, ont un message à l'adresse des politiques, comme vient de le dire Césaire. Quelles sont leurs préconisations?
L'idée, c'est qu'on pense à l'avenir, tout simplement. Et en fait, une des résolutions finales de ce colloque, hein, il y a eu un rapport, et là aussi, ce n'est pas publié hein, dans les actes du colloque, hein, ce qui est publié et qu'on peut trouver dans des bibliothèques, c'est les interventions des gens qui avaient été préparés au préalable. La résolution finale est celle-ci. Maintenir l'authenticité des arts nègres sans les figer dans un conservatisme stérile et de les faire vivre dans une société moderne sans les dénaturer. Conscient que ce problème ne peut être résolu que par les artistes eux-mêmes dans la liberté indispensable à la création artistique, le colloque estime cependant qu'il est possible de créer des conditions favorables à l'épanouissement des arts nègres dans le monde contemporain. Donc vraiment, si vous voulez, il n'y a pas de nostalgie. Et c'est ça qui est fort dans ce colloque. C'est qu'en effet, on parle des arts anciens, des arts traditionnels, mais on parle aussi d'une construction d'un art dans une Afrique contemporaine. Et c'est ça qui est, je pense, aussi la force de cet événement.
Alors, le premier Festival mondial des arts nègres à Dakar en 66, c'est donc un colloque. C'est aussi la première grande expo sur les arts nègres. C'est assez compliqué à monter, hein, parce qu'en fait, il faut rassembler les œuvres. Elles sont éparpillées dans le monde entier, dans des musées, mais également dans des collections particulières. Et les propriétaires ont peur de prêter leurs œuvres. Ils ont peur qu'elles ne reviennent pas.
Oui, la question va se poser un peu en ces termes, mais ce qui est intéressant aussi dans cette exposition, c'est qu'on va en effet avoir des œuvres des grands musées américains, français, anglais, etc., où au départ, il va y avoir des réticences, mais finalement, elles vont prêter. Tous les plus grands collectionneurs privés vont prêter. Et c'est surtout, c'est aussi la présence de pièces de grands musées africains, de collections africaines particulières de royauté. Par exemple, le roi d'Abomey va prêter des pièces. Le roi du Bamoum va prêter des pièces. Donc, c'est aussi une histoire, une autre histoire de l'art, de tout ça. C'est pas que l'Occident qui prête des pièces. C'est ça qui est aussi, je trouve, assez intéressant et qu'on n'évoque pas tout le temps.
Et ça rappelle aussi, et c'est éminemment d'actualité, la spoliation de l'Afrique par l'Occident à travers la colonisation, puisque quand même, énormément de pièces sont bien à l'étranger.
En effet, c'est la question s'est posée, mais vraisemblablement, Senghor et Malraux se sont portés garants du retour de ces pièces, et ce qui fait aussi que ça a marché. Après, je pense que si aujourd'hui un chef d'État se portait garant de la même manière, je ne suis pas sûre qu'on leur prêterait pour autant des pièces, hélas.
Fonction et signification de l'art négro-africain dans la vie du peuple et pour le peuple. C'est le titre de ce fameux colloque où l'on réfléchit très fort à la place de la négritude dans la vie des gens. Une négritude panafricaine à Dakar en 1966, où pour la première fois, les plus grands comédiens, cinéastes, sculpteurs, musiciens sont là, qu'ils soient du continent ou d'ailleurs, ils ont répondu à l'invitation de Léopold de Sédar Senghor. Back to Africa. Duke Ellington et son grand orchestre ont fait le déplacement. Kader Diop aussi. Notre journaliste sénégalais est au stade de Dakar, ébloui.
You know, I've been very lucky as a songwriter. Right now, I'd like to play a few of those songs we have written that have become hits. Some have become standards. Of course, we hope that all of our compositions are among your favorites.
La première fois que j'entendais parler de grand orchestre, il a fallu que je me documente pour savoir ce que c'était un grand orchestre. Un grand orchestre, c'est pas notre petit orchestre de jazz avec la guitare et non, mais c'était un énorme avec beaucoup de musiciens, une trentaine de musiciens. Et c'était Duke Ellington avec son grand orchestre. Et parmi eux, il y avait des gens qu'on connaissait comme ça, bon, de nom, qu'on n'avait jamais vu. Et bon, évidemment, ils ont cassé la baraque. J'ai surtout aimé, moi, le spectacle. Moi, je connaissais Duke Ellington par les vinyles, comme tout le monde. Mais enfin, c'était bien, mais pas... Quand on voit Duke Ellington jouer, on se dit, ben, ça, c'est de la musique. Ça, c'était un des grands moments du festival. Et tout le monde adorait ça. Thank you.
Tous en costard blond, les musiciens de Duke Ellington répondent au doigt et à l'œil aux directions que donne le Duke depuis son piano. Élégant, souriant et généreux, Duke Ellington se lève et d'un geste invite les solistes à se détacher de leur pupitre pour s'approcher au plus près du public.
Les Africains accueillirent avec beaucoup de sympathie Duke Ellington. Mais nous nous sommes demandé ce que pouvait représenter l'Afrique pour tous ces Noirs venant d'autres continents. Nous avons rencontré Catherine Dunham dans un marché de Dakar. Citoyenne américaine, célèbre dans le monde entier par la création de ballets de danse moderne, elle faisait partie du colloque du festival qui devait dégager et définir les grandes lignes de l'art nègre.
En Afrique, surtout Dakar, j'ai l'impression que je suis chez moi. Et comme vous voyez, j'ai toujours des amis. J'ai ma secrétaire ici à Sénégal, Mariam, et je suis là avec toute la famille. Je peux venir quand je veux, je suis chez moi.
C'est un retour aux sources?
Oui, c'est un retour aux sources, surtout du point de vue de l'art. Et comme on a parlé dans le colloque la semaine passée, c'est nécessaire, parce que l'homme ne peut pas perdre ses racines.
Motherless children have a hard time when mother is gone. Motherless children have a hard time when mother is gone. They don't have nowhere to go, wandering round from door to door. Motherless children have a hard time and mother is gone.
Vous écoutez RFI, la marche du monde, Valérie Nivelon.
Et dans la marche du monde, on vient d'entendre la voix de l'afro-américaine Catherine Dunham dans ce reportage tourné à Dakar en 1966. Alors c'est l'expérience du retour en Afrique vécue par les Américains. Comment le vivent-ils à l'époque, Sarah Friou-Salgas?
Bah, ce qui est intéressant là aussi, c'est qu'il y a plusieurs générations qui sont présentes. Hein. Il y a, donc là, on parle de Catherine Dunham, mais il y a aussi Langston Hughes, Duke Ellington, qui eux sont la génération d'avant-guerre. Et là aussi, c'est assez concret. C'est aussi la première fois qu'ils se réunissent tous en Afrique. Donc symboliquement, c'est important. C'est une délégation qui a été un peu triée sur le volet. C'était des grands artistes qui a été organisée par l'État américain. Et on n'a pas pris les artistes les plus engagés. C'était des grands artistes, mais pas les artistes les plus engagés. Ça, c'est un sujet qu'on a évoqué dans une expo qui a été présentée au musée du Quai Branly il y a quelques mois. Et cette question-là, on l'a abordée notamment à travers un film qui a été réalisé au cours de ce festival, le premier festival mondial des arts nègres de William Greaves. Et ce William Greaves, qui était un réalisateur africain-américain, a filmé la délégation américaine dans Dakar. Donc, c'est un très beau film qui symbolise un peu justement... les liens entre, je pense, entre les Africains-Américains et l'Afrique et ceux qui étaient présents, avec le fantasme qu'on peut avoir, que pouvaient avoir les Africains-Américains sur l'Afrique. On le voit dans le ton du film, c'est très beau. Par ailleurs, on parle rarement aussi, il y a une grande expo d'art contemporain africain aussi au moment du festival. Il y a un catalogue qui est très, très intéressant.
Que reste-t-il du Festival des Arts Nègres dans la mémoire de ceux qui l'ont vécu? Comment se souviennent-ils de Dakar en 66? Voici nos derniers témoignages, ceux du journaliste sénégalais Kader Diop au micro de notre correspondant à Dakar Guillaume Thibault et du poète béninois Paulin Joachim. À votre micro, Sarah Friou-Salgas, puisque vous avez eu le bonheur de l'interviewer.
C'était beau, c'était magnifique. Les gens étaient venus d'un peu partout. J'étais toujours émerveillé parce qu'il y avait des réunions, il y avait le théâtre Daniel Sorano qui donnait des pièces d'Africains, de Blancs. On était mélangés. C'était une fête solaire à laquelle participait le monde entier. Parce que le monde aimait cela. Nous apportions un piment. Le monde manquait de piment. Nous apportions quelque chose de spécifique. Ces nègres qui étaient vidés de leur substance spécifique et remplis de la densité des blancs. Ces nègres retrouvaient, renouaient avec leur passé. Et on n'était plus des mensonges ambulants de race et de civilisation. Nous étions des peuples de culture. Nous avions notre culture qu'on a méprisée, foulée aux pieds. Vous voyez, c'était ce festival des Arts Nègres à Dakar. C'était une sorte de symphonie pastorale. C'était beau comme l'oxygène naissant. C'était merveilleux de culture. C'était ça. C'était ça, le festival des Arts Nègres.
C'est assez difficile de dissocier Senghor et la culture.
Kader Diop, journaliste sénégalais.
Nous, en tant que jeunes, bon, ça nous agaçait un tout petit peu qu'on nous bassine avec les histoires culturelles. Alors que, bon, les gens avaient autre chose à faire. Avec l'âge, maintenant, on se dit, bon, finalement, mais ce vieux, il avait raison. Et si on ne fait pas la promotion de notre culture, qui la fera pour nous? Et si on ne se place pas en tant que nègre, qui le fera pour nous? Il n'y aura personne pour le faire. Et dans cette période de mondialisation, où il y a une uniformisation à outrance, on se rend compte que, bon, il avait raison avant nous. Il était omnibulé par la culture. Pour tous ses opposants, la seule manière de le contrer, c'était d'être plus africain que lui. Senghor, c'était un nègre habillé en blanc. Dans sa réflexion, dans sa manière de faire, dans sa manière d'organiser la société, ça agaçait. Senghor agaçait tout le monde parce qu'il était trop rigoureux, il était trop blanc, trop tout bas pour on aurait dit.
Chaque fois que je vais à Dakar, j'ai les larmes aux yeux parce que je revis ces moments d'avril 1966, Dakar était habillé de bleu, les rues avec des ombrages bleutés. Dakar, dans cette toilette, ses grands boubous, ses femmes opulentes, charmantes, qui parlaient un français très pur, parce que les Français sont restés 3 siècles et demi au Sénégal. Le Sénégal, pour nous, c'est le monde blanc en contreplaqué. En contreplaqué, les Sénégalais, nous les regardions, nous, de l'Ouest africain, nous les regardions comme des blancs.
Sinon, les artistes sénégalais eux-mêmes ont beaucoup appris. On a eu un foisonnement d'artistes et puis une éclosion d'artistes après le festival, ce qui a renforcé ce qu'on appelait l'école de Dakar en peinture. Sans compter la connaissance de la plupart des écrivains africains dont on entendait parler et qu'on ne voyait jamais. César, on ne l'avait jamais vu. Il y avait Aline Diop qui était établie à présence africaine en France, qui est sénégalais mais qui venait rarement au Sénégal. Et c'est le personnage le plus important du festival et plus important même que César, parce que le festival, le concept du festival lui appartient à la Société africaine de culture. C'est ces sociétés-là qui organisent des festivals. On l'oublie parfois, on pense que c'est Senghor qui l'a organisé, d'accord, mais le concept appartient à la présence africaine et à la Société africaine de culture.
Le colloque adresse à la jeunesse du monde noir son ultime message. C'est d'elle que dépend l'avenir de notre culture. L'Afrique mère lui demande de ne pas trahir ses traditions d'humanisme, de ne pas conduire à sa perte son héritage culturel. Le colloque remet entre ses mains les espérances des hommes de culture noire et de notre mère, l'Afrique.
Et Aline Diop, malheureusement, n'a pas écrit, mais c'était le personnage principal de la promotion de la culture. Et il était respecté par tout le monde, par les chefs d'État, honnêtes et tout. Donc c'est ce qui fait que on ne peut pas l'oublier.
Celui-là, on ne peut pas l'oublier. Kader Diop n'oublie pas le combat d'Alioune Diop. Et il n'est pas de la famille d'Alioune Diop, je tiens à le préciser. Alioune Diop, figure discrète, mais ô combien centrale dans la défense de la cause des Noirs. C'est d'ailleurs ce que nous avons pu montrer avec vous, Sarah Frius-Algas, à travers les 3 épisodes de notre série Noire et notre cause. Alors vous, qui avez été la commissaire des expos consacrés à présence africaine et à Dakar 66 au Quai Branly, qu'en pensez-vous ?
Je suis évidemment d'accord avec Kader Diop. Et en effet, il n'a rien publié. Il n'y a pas de texte, de livre écrit par Alioune Diop directement. Moi, je pense très sincèrement qu'il faudrait faire un recueil de tous les liminaires qu'il a écrits pour la revue et qui sont en fait dont il est l'auteur. Et en effet, faire un recueil de tous ces liminaires, ça permettrait un peu de comprendre la dimension de cet homme et de sa complexité. Et c'est ça qui est très fort chez Alioune Diop. C'est qu'il était discret, complexe et qu'il a donné la parole à tous.
Un liminaire, qu'est-ce que c'est ?
Un liminaire, c'est les textes de présentation dans une revue, le texte introductif d'une revue qui permet de comprendre voilà, les enjeux du numéro, de chacun des numéros. Pour revenir à Malraux, qu'on a écouté tout à l'heure. En effet, et je suis contente d'entendre Kader Diop dire que c'est pas que Senghor. Et quand il dit, voilà, pour la première fois, un chef d'État africain, enfin voilà, toute cette fameuse phrase, hein, très forte, en effet, je pense que c'est un peu omettre que Senghor, il prend en charge un combat collectif. Et ça, c'est très important. Et si en 66, le festival a lieu, c'est parce qu'en effet, Alioune Diop a commencé ce travail avec Présence africaine, qui a eu 56-59. Et c'est Senghor qui va prendre en charge voilà, la réflexion de tout le monde. Et c'est un peu ça que le discours de Malraux, finalement, omet trop souvent.
Donc il faut rendre à Alioune Diop ce qui appartient à Alioune Diop.
Oui, à Alioune Diop et à tous les gens autour de Présence africaine qui se sont engagés auprès de lui. Et on pourrait aussi rendre hommage à sa femme, hein, qui a vraiment participé à ce combat avec lui, et à sa famille. Je pense que ça n'a pas été simple, voilà, tous les jours, d'être... d'entourer un homme comme ça qui s'est dévoué pour une cause si grande. Voilà. Je voudrais rendre hommage à sa femme également, Christiane Diop.
Je vous remercie, Sarah Friou-Salgas, de nous avoir accompagnés sur cette série et d'avoir partagé vos archives personnelles. Tous nos remerciements également à Jacqueline Sorel, ancienne productrice de RFI, ainsi qu'à notre documentaliste Françoise Delignon pour les archives sonores de RFI et de l'INA. C'était le Festival de Dakar 66 sous la négritude épanouie. Une émission de La Marche du Monde écrite avec Amaury Auchard et mise en onde par Cécile Pompéani et Sophie Janin. Podcastez, téléchargez, écrivez-nous sur Facebook. Cette émission, c'est la vôtre.